Bonjour. Alors, comme chaque mois, nous allons vous parler théâtre. Et cette fois-ci, ce mois-ci, nous avons eu l'idée de parler un peu de théâtre et de politique. Et pour cela, nous avons invité une personne, une grande personnalité, un homme qui aurait pu être notre président de la République, avec un peu de chance.
Ah, mais il pourra l'être.
Je l'espère. Voilà, et qui s'appelle François Asselineau, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc voilà qui est mon invité politique principal. Et avec lui, il y a une des plus grandes comédiennes françaises qui s'appelle Louise Lemoine-Torres, avec lequel j'ai fait beaucoup de spectacles. Elle a entre autres joué magnifiquement Bérénice de Racine, qui est quand même la plus belle pièce du monde. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Et puis en ce moment, elle joue une de mes pièces qui s'appelle La Confession, voilà, que nous jouons dans mon théâtre du Nord-Ouest. Voilà, alors on va parler politique, on va parler un petit peu de l'engagement des hommes politiques, du sens de la politique, de l'intérêt, du rapport entre le théâtre et la politique. Et pour ça, je veux commencer par, en matière de provocation, n'est-ce pas, je veux commencer par un petit extrait. Et puis, vous allez évidemment réagir à ça. C'est un de mes livres. J'ai écrit quelques livres sur le théâtre. Et voilà, alors, donc vous allez voir. Alors, ça s'appelle « L'État dans tous ses états ». C'est le titre du chapitre. Alors, le 28 septembre 2015, sur France 3, dans l'émission « À l'Élysée, un temps de président », on a assisté à une scène surréaliste qui, par sa portée symbolique, pourrait être un jour un témoignage pour l'histoire. François Hollande, alors chef de l'État, Emmanuel Valls, Premier ministre de la France, bavarde sur la terrasse de l'Élysée, côté jardin, et non côté cour, avec la très sympathique Fleur Pellerin, qu'il vient de nommer ministre de la Culture, non pour lui parler de l'œuvre de Patrick Modiano, ce qui était plutôt judicieux, mais pour lui prodiguer quelques conseils. Alors cela donne ceci. Hollande. Il y a plein d'idées qu'on peut avoir. La force de langue, c'était ça, quand même. Hein. Il était capable d'avoir des idées. Il faut des idées. Vois Jack, il a des idées. Il y a Valls qui intervient, qui dit « Mais vois-le, il sera ravi, Hollande. Premier rendez-vous à avoir, c'est Jack. » Valls et Monique. Hollande. Et Monique, bien sûr. Valls, tu peux l'utiliser. On voit à l'image notre fringante jeune ministre rigoler un peu. Sans vraiment que l'on sache si c'est l'évocation de son si brillant prédécesseur, le bon Jack, ou celle de son égérie d'épouse qui lui procure ce petit bonheur. Et l'émission de se poursuivre. Valls, vois Jean-Jacques Ayagon. Hollande, les anciens ministres, Jean-Jacques. Valls, va au spectacle. Hollande, tous les soirs, hein, il faut que tu tapes ça. Hein, et dis que c'est bien, hein, que c'est beau, hein, ils veulent être aimés. Un tel cynisme, un tel mépris est déjà réjouissant, même si bien sûr le cher président veut faire de l'humour. Mais le plus beau peut être à venir. Hollande, il y a aussi une dimension économique. Ils sont très fiers d'avoir un levier économique. Il ne faut pas penser que cela ne les intéresse pas. Imaginons une seconde la même conversation avec De Gaulle, Pompidou et Malraux, et on aura compris l'étendue des dégâts. Combien d'années aura-t-il fallu pour en arriver là ? François Hollande n'est évidemment pas un imbécile, ni Valls un inculte, de même que Nicolas Sarkozy. Dieu lui prête du repos, a dû lire depuis ses envolées La Princesse de Clèves, mais nos hommes politiques de la nouvelle génération ne placent pas la culture au centre de leurs préoccupations, et encore moins le théâtre. De Gaulle était imprégné de Chateaubriand, et il avait pour les écrivains de son époque, Mauriac, Gide, Monterland, Bernanos, une sincère admiration. Mieux, il prenait son ministre de la Culture pour un grand homme. François Mitterrand passait ses loisirs à courir les bouquinistes quand il n'interrogeait pas Jean Guiton sur l'existence de Dieu. Et quand l'un et l'autre devaient assister à un match de football pour soutenir l'équipe de France, c'était pour eux une corvée. Imaginons De Gaulle les bras en l'air faire lever de la victoire après un but. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cet extrait, Monsieur Asselineau?
Eh bien, d'abord, merci de me recevoir. Et puis, bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie.
Que vous fréquentez, j'imagine.
Que je fréquente, mais c'est la première fois, en fait, que je participe à une émission, je crois, strictement culturelle. Peut-être pas tout à fait, j'ai peut-être été invité jadis par Paul-Marie Couteau.
Ah, bah mais, oui, le cher Paul-Marie
voilà,
Couteau.
Mais, alors là, on parle effectivement, c'est assez nouveau comme thématique, en fait. C'est finalement le théâtre et politique. Et puis la relation de nos responsables politiques avec la culture. Je dirais, effectivement, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, il y a quand même une inculture globale du monde politique aujourd'hui qui est assez phénoménale. On a des responsables politiques qui n'ont pas le niveau de ce qui fut jadis, le niveau d'un De Gaulle, d'un Pompidou qui était quand même normalien, qui avait fait une anthologie de la poésie française.
Magnifique, voilà. Magnifique anthologie.
Donc on avait vraiment des responsables de très qui vous savez ce que c'est De Gaulle, je crois, qui a eu cette citation extraordinaire. Je la cite de mémoire, je vais peut-être un peu l'écorcher, mais c'était que la principale nécessité pour gouverner, c'est d'abord la culture générale. Hein, il dit derrière les expos d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Voilà. Donc ça maintenant c'est terminé. De Gaulle disait aussi que les grands hommes de qui avaient changé l'histoire de leur pays, c'était d'abord des gens qui étaient des qui connaissaient très très bien leur propre pays, leur propre histoire. On a affaire, alors là c'est presque une caricature avec Macron, on a affaire à quelqu'un qui ne connaît même pas l'histoire de France, qui la connaît mal en tout cas, ou qui la connaît de façon schématique. Donc c'est triste en effet que le monde de la culture, ce qu'on appelait jadis sous la Troisième République, on appelait ça le ministère des Beaux-Arts. Là le monde de la culture, ça s'est voulu beaucoup plus englobant. C'est devenu, malheureusement, il faut quand même le dire, un peu une pompe à fric pour beaucoup d'associations, des gens qui sont accrochés aux subventions du ministère de la Culture, pour parfois des choses parfaites, et puis parfois des choses moins bonnes. Et puis surtout, il y a une espèce de droit de tirage sur fonds publics payés par les contribuables qui est intolérable. Et ceci se passe souvent d'ailleurs. Les fameuses idées de Jack, vous parliez de Jack, il s'agit de Jack Lang, pour que tout le monde ait bien compris.
Ah bien sûr, Jack,
que tout le monde ait bien compris. Les idées de Jack Lang, je suis désolé, oui, c'était le, alors il a fait la fête de la musique. C'est vrai que ça a été repris un peu dans le monde entier. Enfin, maintenant, c'est un peu devenu la fête du bruit, en définitive. C'est-à-dire que ce qui se voulait, il y a un monde entre assister à un concert, même dans un lieu ouvert, parce que c'est le 21 juin, je me rappelle d'avoir assisté à un concert, c'était la symphonie des adieux de Haydn sur la place centrale de Menton au mois de juin. C'était absolument merveilleux. Il y a un monde entre ça et puis les gens qui font n'importe quoi à chaque carrefour et qui empêchent les riverains de dormir jusqu'à 3h du matin, la nuit du 21 juin. Alors effectivement, Jack Lang, il a impulsé sous Mitterrand un changement profond, je pense. Il a vraiment créé un ministère avec des abonnés aux subventions publiques. On a eu un concept extrêmement inflationniste, si j'ose dire, de ce que c'est que l'art. C'est pas seulement vrai, d'ailleurs, seulement en France. Je pense que c'est vrai aussi un peu partout. Et j'aurais tendance à corréler, si vous me le permettez ça.
Oh, je vous permets tout. Vous savez, nous sommes sur une radio totalement libre. On peut dire tout ce que l'on veut.
J'aurais tendance à corréler ça à des questions de civilisation. C'est pas pour rien que la Renaissance est née à Florence, avec Côme l'Ancien, puis ensuite avec toute la famille de Médicis, a culminé sous Laurent le Magnifique, c'est que la prospérité économique, le commerce, la prospérité économique, etc., la sécurisation politique aussi d'une cité-État, a vu éclore la Renaissance, a vu éclore à partir des fresques de Masaccio.
En train de monter Lorenzaccio, alors c'est pour vous dire.
Voilà.
On est au cœur du sujet.
On a une corrélation qui se retrouve à travers toute l'histoire du monde entre la santé économique d'un pays, la façon positive de percevoir le futur pour lui-même, et une éclosion des arts de toute nature. Voilà. Évidemment, la France en est un exemple avec le grand siècle. Hein, c'est quand même... La France était la première puissance du monde hein, sous Louis XIV, si on excepte... les lointaines Indes, mais qui étaient divisées en des quantités de principautés, et si on excepte la Chine, mais qui était très très lointaine, la France était le pays quasiment le plus peuplé, d'ailleurs, du reste du monde à l'époque, et c'est au grand siècle qu'apparaissent, ben, évidemment, à la fois nos grands, vous parliez de Racine à l'instant, mais donc évidemment Molière, Corneille, mais aussi Nicolas Boileau, par exemple, hein, qui va fixer l'art du français, enfin toute la qualité de la langue française, hein, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. On a Boileau, enfin bon, tout le monde connaît ça. Si on compare ça, il y a eu d'autres moments d'ailleurs, pas seulement que le grand siècle, on peut dire quand même il y a une floraison avec les impressionnistes sous Napoléon III et le début de la Troisième République, où mine de rien la France... sous la seconde partie du Second Empire, à partir de ce qu'on appelle l'Empire libéral, puis la Belle Époque, on a eu quand même une floraison de peintres extraordinaires, et même en matière musicale aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, et c'était vrai encore sous De Gaulle, dans les années 60, vous avez raison, il y avait des grands artistes. Moi, je me rappelle, j'ai fait mon service national comme coopérant au Japon à l'époque, c'est en 1981. Partout, vous aviez des photos de Alain Delon, de Catherine Deneuve. Il était question partout de... Ils étaient peut-être un peu en retard, mais enfin, il était question encore de Camus, de Sartre, de Simone de Beauvoir. Enfin, c'était très impressionnant de voir à quel point De Gaulle et Malraux, son ministre de la Culture, avaient en effet redonné à la France une grande... Donc il y a une très grande corrélation entre le bien-être d'un pays en matière, la bonne santé économique, la forte croissance économique, son bien-être politique, si j'ose dire, en tout cas la façon positive dont les gens se projettent dans l'avenir, et une floraison culturelle. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la Chine, parce que la Chine, il y a des productions culturelles en Chine, dans différents domaines, hein, même architecturales, en peinture. D'ailleurs, un des grands succès en ce moment en France, vous savez, ce sont les spectacles chinois, vous savez, qui viennent en France, qui sont très commerciaux. Mais c'est quelque chose de nouveau, voulez, de voir cette floraison.
Mais si vous voulez, parce que là... L'émission, elle est surtout consacrée au théâtre. Oui. Hein, donc peut-être que ça... là, je vous ai... Louise, j'aimerais bien que vous lisiez ce petit passage-là pour recentrer un peu notre conversation sur le théâtre, parce qu'il y a une spécificité du théâtre qui n'est pas exactement la même chose que la culture. Que la France soit le phare de la culture, ça...
Le fut,
et j'espère grâce à nous... Ça va continuer.
Mais ça va continuer, parce que le théâtre est un spectacle vivant.
Voilà, un spectacle vivant. Voilà. Lisez ce passage, et puis je vous interrogerai là-dessus, sur ce que ça veut dire exactement.
On peut certes prêter à nos hommes politiques des volontés perverses d'endormissement, d'étouffement, ou tout simplement de récupération. Mais c'est leur faire bien de l'honneur. La vérité est plus prosaïque, et se résume en un mot. L'indifférence. En d'autres termes, ils s'en foutent. Quand par exemple un gouvernement de droite nomme Daniel Mesguich, metteur en scène revendiqué de gauche, pape d'un théâtre distancié provocateur, à la tête du Conservatoire national d'art dramatique de Paris, lieu stratégique hautement essentiel pour l'avenir du théâtre en France, il lui importe seulement qu'il ait une certaine notoriété, une indiscutable connaissance de son métier, qu'il fasse une bonne gestion et pas trop de vagues. Mesguich, qui a postulé, est bien trop intelligent pour ne pas comprendre l'enjeu, accepte le poste et donne le change. Avec parfois même des prises de position courageuses et de bon sens, comme lorsqu'il a résisté au gouvernement qui exigeait le baccalauréat pour tout élève qui voulait entrer au conservatoire. Mais pourtant, Mesguich, comme beaucoup de ses pairs nommés à de hautes fonctions culturelles, défend un certain théâtre. Et ce théâtre, à sa façon, est politique. Le bonhomme, pour le dire vraiment très vite, car son théâtre nourri de psychanalyse et influencé par le Talmud est plus complexe que cela, est un petit-fils de Brecht, l'enfant d'une recherche théâtrale qui tente à laisser le spectateur en distance du spectacle, c'est-à-dire critique de ce qu'il voit. avec l'idée force que plus le spectateur s'identifie au personnage, moins il réfléchit. Dans ce genre de théâtre, la chasse est faite à l'émotion qui aveuglerait la raison. Tout est en œuvre pour que le personnage ne soit pas plongé dans l'action de l'histoire racontée, mais montré se conduisant face à cette action. Brecht développe tout ça très bien dans « Le petit organon » et « L'achat du cuivre ». Ce type de théâtre réellement politique, accompagnant la chute du mur de Berlin, est heureusement passé de mode. Mais ses héritiers, dont Mesguich, sont bien vivants. L'homme est de qualité. Il s'est assagi, polissé, ouvert, comme ils le font presque tous quand ils arrivent à des fonctions importantes. Mais responsable d'une école d'État, il passe le flambeau à de jeunes comédiens, à de jeunes metteurs en scène, qui ne peuvent même pas imaginer qu'il existe un type de théâtre autrement plus important. Le résultat est que ses élèves pratiquent la distanciation, comme ils respirent, c'est-à-dire comme le monsieur Jourdain de Molière pratiquait la prose. Une distanciation à la Brecht, mais normalisée, aseptisée, dépolitisée, obéissante et mécanique. Force est de constater qu'elle inonde aujourd'hui les scènes de France et principalement, bien sûr, les scènes du théâtre public. Résultat, du théâtre qui ressemble à du spectacle, sans âme, sans nécessité, mais déshumanisé, propre, bien fait, nourri intellectuellement d'une intelligence préfabriquée et scéniquement d'un inventif de déjà-vu. Est-ce qu'une telle situation intéresse les politiques ? Évidemment non. Le théâtre n'est pas à la mode, il ne fait pas de bruit. Et puis quoi ? Il faut avoir l'esprit large et laisser les créateurs créer. C'est-à-dire, pour nos représentants de la nation, même s'ils s'en défendront toujours, faire joujou. Ce ne sont ni des imbéciles ni des incultes, mais leur préoccupation est ailleurs. Le théâtre ne les intéresse finalement que comme nostalgie d'enfance quand maman les emmenait aux matinées classiques à la Madeleine de Proust. Ou bien comme divertissement, au mieux comme vecteur de culture. Je ne parle que des meilleurs. Alors que le théâtre, dans son essence, est éminemment politique. C'est un acte grave que d'en faire, et que de le voir. Utilisé dans son meilleur, il montre l'homme à l'homme, le citoyen au citoyen, l'individu à l'individu, et dans le vivant, pas seulement comme dans la vie, mais mieux encore que dans la vie, puisqu'il oblige le spectateur qui paie sa place à ne pas fuir le réel, à regarder, à écouter. Rien de ce qui se passe sur une scène de théâtre ne peut lui échapper. L'homme est le cœur de son projet, son but, sa raison d'être, son essence, sa nourriture. Mais de qui parle-t-on ? De quel homme s'agit-il ? Quel homme ce théâtre d'exigence peut-il nous montrer ? Non pas une partie, un élément, un archétype, une caricature, une forme, un ersatz, comme pour faire vite, dans ce théâtre distancié qui a pignon sur rue, mais l'homme, avec un grand H, l'homme tout entier, la créature complexe que nous sommes et que nous sommes tous, l'être que nous croisons tous les jours et qui ne cesse de nous étonner par sa richesse, sa profondeur, son incroyable capacité à être des millions en un seul. En se voyant penser, vivre et agir dans le miroir de la scène, l'homme apprend de lui-même. Et apprenant de lui-même, il est en apprentissage de liberté. Cette forme de théâtre qui permet miroir et identification, je l'appelle théâtre de l'incarnation.
Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Oui, c'est de vous ce texte.
Oui, bien sûr, c'est une partie de mes livres.
Oui, bah, c'est un très beau texte, c'est magnifique. Si vous voulez, moi, le sujet étant théâtre et politique, moi j'ai un peu le sentiment qu'on parle de plus en plus de la scène politique. C'est intéressant de parler de la scène politique, comme si c'était une scène. Mais la grande différence, moi j'essaie toujours de rendre mes propos très très grand public, il me semble que la grande différence entre le théâtre et la politique, telle que c'est aujourd'hui conçu, c'est que le théâtre, quand vous êtes dans une pièce de théâtre, ça vous donne à réfléchir. Je suis allé voir au Théâtre du Nord-Ouest votre pièce, il y a quelques semaines, donc sur la confession. Franchement, c'est une pièce assez dure, en fait, et ça donne à réfléchir. J'étais allé voir aussi, auparavant, une pièce, c'était De Gaulle qui revenait. Bon,
La pièce de Jean-Marie Besset, c'est
absolument,
ça, qui était très, très, très mauvaise.
Oui, mais bon, il y avait... ça donnait quand même... Il avait trouvé des personnages qui s'incarnaient dans le monde, dans le mur.
Oh, enfin, c'était totalement ridicule, franchement.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
Ça
je trouve que c'était... Si, ça donnait à réfléchir. Là, là le problème...
J'aime
que
bien Jean-Marie, mais enfin, franchement,
non,
là...
Non, je suis pas... Vous êtes sévère. Je trouve qu'il avait trouvé des... Bon, il y avait des choses qui étaient plus ou moins critiquables, bien sûr.
Mais c'est justement ça.
La différence avec, avec les politiques, c'est que les politiques, ils n'ont retenu du théâtre que le caractère absolument artificiel, en fait. Ils jouent un rôle... Ils ne sont pas là pour faire réfléchir, ils sont là pour enfumer la population. C'est pas du tout pareil d'être un chef d'État ou d'être un acteur de théâtre. On a de plus en plus, regardez ce qui s'est passé au cours des dernières décennies, Ronald Reagan aux États-Unis qui était un acteur, Schwarzenegger qui est un acteur qui aurait brillé la présidence des États-Unis s'il n'était pas né, vous savez qu'il faut être né au sol américain, mais ce qui n'est pas son cas. Il y a Václav Havel en République tchèque qui a été, nous on a Macron qui a commencé sur les planches guidé par sa femme.
Et la grande actrice grecque à l'époque, c'était Mercouri.
Oui, mais Mélina Mercouri
qui était ministre de la culture,
qui était ministre de la culture du temps de Mitterrand, qui était une amie de Mitterrand. Mais encore, c'est un peu différent, Mélina Mercouri. Mais on a de plus en plus des gens qui font semblant d'être des chefs d'État. Qui font semblant, ils ne sont plus que dans l'apparence, en fait. Ils ont... alors, c'est un peu la problématique hein, du paradoxe du comédien, hein, de Diderot, etc. Donc, est-ce qu'il faut s'incarner, en effet, dans un personnage, ou est-ce qu'il faut être une coquille extérieure? Et moi, j'ai un peu le sentiment que la vraie différence, je parle sous votre contrôle, hein, moi, je suis un béotien, enfin, j'aime bien le théâtre, mais quand on va au théâtre, effectivement... On réfléchit, voilà, on s'invite, vous parliez de Bérénice, mais ben, toutes les pièces de Racine sont admirables, Andromaque ou Phèdre, on n'en sort pas tout à fait indemne, surtout quand on est jeune. D'ailleurs, le public des théâtres est plus jeune que la moyenne, hein, en règle générale, d'après les statistiques que j'ai vérifiées. Ça donne à réfléchir. Quand vous voyez Hollande, quand vous voyez Macron... Ça donne envie de quoi? Ça donne envie de prendre une tomate et de le renvoyer sur la tête. Voilà. Parce qu'il se moque du monde, parce que c'est du guignol. Ce ne sont plus. On ne veut pas avoir un acteur pour diriger la France. On veut avoir quelqu'un qui prend des responsabilités. Ça, c'est quand même tout à fait différent.
Oui, mais le théâtre n'est pas là uniquement pour réfléchir. Ce que j'essaye de dire dans ce texte que Louise a lu, c'est qu'on voit son frère humain vivre et agir. C'est ça qui compte. Le théâtre n'a de sens que s'il est miroir. Parce qu'on ne se connaît pas. Tout d'un coup, on voit l'autre, là, vivant, en face de soi, voilà, à condition que ce soit vraiment un être humain. Et le problème, c'est que j'ai rien contre Mesguich, parce qu'en plus de ça, ça date, il était professeur d'art dramatique au conservatoire il y a quelques années maintenant, ou Vitesse, ou des gens comme ça, Vitesse qui a été nommé administrateur de la Comédie Française, qui est quand même assez, quand on y pense, assez ahurissant. Bon, parce que ce sont des gens qui pratiquaient ce théâtre de distanciation, ce théâtre brechtien, qui montre quoi? Qui montre une partie de l'homme, qui essaye de faire sortir une partie de l'homme. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on voit l'homme dans sa globalité. Et le théâtre permet ça. Et on a besoin de voir son frère vivre. Parce qu'on se connaît pas. Et là, tout d'un coup, sur un plateau, on le voit, l'autre, là, agir dans sa vérité. Alors que ce soit un thème comme celui de la confession, où là, il s'agit d'un prêtre qui a des turpitudes. Mais malheureusement, moi qui suis catholique, on a rencontré des prêtres. Là, tout d'un coup, on voit ce que c'est. On voit ce que c'est qu'un prêtre qui a la foi, et on voit ce que c'est qu'un prêtre qui est dans les turpitudes, et on voit ce que c'est quelqu'un qui est déchiré par ses désirs, déchiré par ça. C'est ça. Et on voit ensuite aussi une juge qui est là et qui essaye d'appliquer la loi de la République. Et tout ça, ce sont des gens...
De comprendre l'humain.
Voilà, dans l'humain.
Prêtre.
Et c'est toujours que de l'humain. Et c'est de ça dont on a besoin.
Et de l'authenticité,
voilà,
en fait.
De l'humain. Qu'on est, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est rentré dans un art qui n'est plus du théâtre, mais qui est du spectacle. Et le spectacle, ça n'intéresse... Le spectacle, ça sert à rien. Voilà. Ça sert à se détendre, c'est sympathique.
Bah c'est
gentil.
L'entertainment.
C'est pas... voilà.
C'est un mot d'américain.
Le problème de la pièce de Besset dont vous parliez tout à l'heure, c'est que c'est ça. C'est très sympa. Mais enfin, bon, incarner De Gaulle comme il... qui est quand même, c'est autre chose, quoi. Là, c'était de la rigolade sur De Gaulle. Gentille rigolade, parce que Besset n'est pas un imbécile. On peut d'ailleurs conseiller d'aller à la cartoucherie voir sa dernière pièce qu'il a écrite en Alexandrin.
Frédéric Lazzarini, son dernier.
Oui, qui est assez qui est assez rigolote. Bon, enfin, malgré ses obsessions homosexuelles, puisque là, c'est sur Frédéric II qui transforme en homosexuel, comme il a fait une pièce sur Molière pour dire que Molière est un homosexuel. Bon, pourquoi pas, mais ça, c'est des obsessions de Besset. Mais c'est pas, si vous voulez, et là encore, c'est assez incarné, hein, la pièce qui est à la Cartoucherie. Mais quand ça n'est pas incarné, ça sert à rien. Le théâtre ne sert à rien, si vous voulez. Mais je trouve, moi, que les politiques, les hommes politiques, s'en contrefichent complètement et ils ne voient pas la différence.
Est-ce qu'il n'amène pas, malgré tout, parfois, quand ce n'est pas si bien incarné que ça, comme le spectacle qu'on a vu ensemble, Gémeaux,
Roméo et Juliette,
bien sûr, Shakespeare, de pousser les gens, puisque c'est ce qu'on a entendu après, à lire, à découvrir Shakespeare, malgré tout. Donc il y a quand même un point positif, ce n'est pas que du négatif, puis chacun prend ce qu'il a à prendre.
Ah oui.
Mais je suis d'accord avec ça, parce que, encore une fois, je mets pas au pinacle la pièce que j'avais sur le nom.
Je plaisante.
J'avais trouvé
sûr.
Déjà qu'il y avait un bon choix d'acteur, parce que c'était
oui,
quand même
sûr.
Assez impressionnant. Et par moments, non, il y avait, tout n'était pas parfait. Mais ce que je trouve, c'est que ça pouvait donner au public envie d'en savoir davantage.
Oui.
C'est un peu comme la pièce de votre pièce que je suis allé voir, qui est quand même une pièce assez rude, quand même. Mais c'est vrai que ça, effectivement, on touche l'épaisseur humaine, on touche de l'authenticité. Quand on voit actuellement les responsables politiques, il n'y a pas que Macron d'ailleurs, c'est
bien
quelque
sûr.
Chose d'absolument artificiel et vide. C'est comme un texte d'intelligence artificielle. Il joue un rôle, mais c'est dans le mauvais sens du terme. Hein, c'est ça que je veux dire. Et ça va de pair en effet avec peut-être un développement généralisé d'un entertainment, hein, comme on dit ce mot d'américain, c'est-à-dire une espèce de voilà, on entretient par des spectacles, par des trucs, par des machins, qui ne prêtent pas autant à la réflexion que le théâtre. Le théâtre, il est quand même né, je sais pas vous, je vais l'apprendre, il est né sous la Grèce antique, avec des auteurs qui sont encore, comme Eschyle ou Euripide, qui sont quand même encore, qui sont d'une profondeur extraordinaire. Quand on compare.
Oui, mais qui pratiquaient sans le savoir, hein, une distanciation. C'est la grande différence,
en le fait,
grand,
avec le cœur, bah,
bien
voilà.
Sûr, le grand projet,
c'est
l'évolution du théâtre, elle s'est faite par les classiques français, hein. Parce que la différence qu'il y a, c'est que Racine, Corneille, Molière, pour ne prendre que les trois grands, eh bien, ont amené la psychologie. Ont amené la vérité humaine, ont amené voilà. On est passé on est passé d'une catharsis sociale, hein, qui était le projet des Grecs, à une catharsis individuelle. Et c'est de ça dont on a besoin, cette catharsis individuelle. C'est pour ça que les classiques français sont absolument essentiels à l'évolution. Voilà. Alors quand on peut. Il y a évidemment dans certaines pièces grecques et latines des éléments de psychologie, mais à chaque fois c'est toujours un petit peu. Mais il y a ce principe qui a été repris par Brecht, des chœurs, pour essayer de raconter l'histoire, voilà. Mais non, oui, c'est une distance. C'est une distance.
Donc ça, c'est votre vision du théâtre de l'incarnation, c'est ça?
Oui, mais c'est ce théâtre-là qui est essentiel à la cité. C'est celui-là qui est essentiel à la cité. Sinon, le reste, c'est des spectacles de divertissement et d'intelligence et de culture.
Oui.
Mais la culture, on s'en fout. La culture, c'est pas une fin en soi. La culture, c'est un... Voilà. Ce qui compte, c'est l'être humain. Et le théâtre, normalement, c'est l'homme qui est au cœur du théâtre. Sinon, il a...
Il est vrai que... Par exemple, quand le public sort de la pièce de Jean-Luc, la Confession, qui est en effet une pièce douloureuse, puissante, percutante, remuante, dérangeante, ça laisse des traces et qu'il y a tout le temps des débats après sur nous. Parce que là, ça se passe dans le milieu des prêtres, mais ça se passe dans tous les milieux, n'est-ce pas? En ce moment, on ne va pas dire le contraire. Et ça touche tout le monde et on sent que ça a touché un point profond de chacun et de chacune d'entre nous, y compris nous sur scène. Et en fait, la question parfois, alors moi en tant que spectatrice, en tant qu'actrice, je me dis qu'est-ce qui me reste une semaine plus tard? J'en ai vu des spectacles et parfois, il ne me reste rien. Alors j'ai vu une belle forme extraordinaire, techniquement parfaite, mais effectivement il ne me reste rien. Et parfois il me reste énormément... 3 mois, 4 mois, 2 ans plus tard, ça veut dire qu'en effet, là, je rejoins le théâtre de l'incarnation. Moi, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais
oui, voilà, c'est ce que j'allais dire.
Voilà, oui. Mais effectivement, ce qui me reste parfois et qui me fait grandir, c'est en effet, je le reconnais au bout d'un certain nombre d'années passées sur cette terre, ça reste l'incarnation. Mais ça, les deux peuvent être jugulés en réalité. Il faut incarner, même dans un truc complexe, très, très technique, très bien.
Mais parce qu'il n'y a pas que le théâtre, la musique, la
bien
peinture,
sûr, la, danse,
la sculpture, la danse, tout ça
mime,
apporte quelque chose.
Sûr,
c'est absolument
les
livres.
Et avec le mime, on peut incarner des choses incroyables.
Simplement, c'est que le théâtre a une spécificité. C'est la possibilité de globalisation de l'homme. Quoi. C'est ça qui est formidable. Et dans le vivant.
Dans le vivant.
Ça, c'est ça qui est extraordinaire. C'est comme dans la physique quantique, c'est-à-dire que même le spectateur participe, parce que celui qui regarde transforme la chose regardée, si vous voulez. Bon, ben c'est ça qui est unique. Voilà, on n'est pas un produit. D'ailleurs, c'est pour ça, ce que je dis toujours, c'est que le théâtre, c'est vraiment l'art de l'avenir. Autant avec l'IA, on va avoir, c'est vrai, de plus en plus, tous les gens qui font la synchro, les comédiens, même le cinéma, on peut remplacer, on le voit maintenant dans certains films, on peut remplacer l'être humain. Voilà, et puis on part des machines, des images,
etc. En synchronisation, en doublage, c'est,
voilà,
c'est
exactement.
Ce qui se passe. Là.
Alors que le théâtre, on aura toujours besoin du vivant. On aura toujours besoin. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça, et je trouve moi que les politiques n'en prennent mais vraiment absolument pas conscience, c'est que le théâtre n'est plus du théâtre. Et moi, quand je vois, je suis critique, comme vous le savez peut-être, à Valeurs Actuelles, donc je vais au théâtre régulièrement, mais je ne vois quasiment plus de théâtre. Je vois des spectacles, je vois des projections, je vois des one-man shows, je vois des voilà. Mais des vraies pièces de théâtre, il n'y en a quasiment plus. Des pièces de théâtre où on voit son frère humain vivre et agir devant soi, à qui qu'on pourrait rencontrer dans la rue, j'en rencontre pas. Parce que le problème, c'est que quand on parle de Bérénice, de Racine, on dit « mais oui, mais c'est très loin ». Non, simplement c'est que Racine, qui connaît l'être humain mieux que quiconque, simplement c'est que au lieu de parler avec la langue d'aujourd'hui, ce français d'aujourd'hui qui est le nôtre, il parle avec un autre français qui est l'alexandrin. Mais c'est pas différent d'une autre langue. À l'intérieur de cette langue qu'est l'alexandrin, eh bien, on retrouve toute l'humanité, la psychologie, la vérité, la peur, l'amour, la violence.
Lorsque c'est bien joué, le public très jeune suit parfaitement bien.
Exactement.
Oui, tout à fait.
Comment un homme politique peut accéder à cette idée de l'incarnation? C'est ça la question. Comment il peut toucher ça?
Mais encore, je trouve quand même un petit peu
sectaire.
Oui, un petit peu un ayatollah, parce que je pense que...
N'ayez pas peur des mots.
Non, mais je suis là un peu vous rapporter la contradiction. Par exemple, dans le théâtre grec antique, je ne sais pas, c'est Euripide qui fait dire, qui parle du temps, le temps révèle tout, c'est un bavard qui parle sans avoir jamais été interrogé. C'est des phrases qui sont très...
Ah, bien entendu.
Bon, mais donc ça fait réfléchir.
Ah, bien sûr, un livre aussi fait réfléchir.
Oui, non, mais vous ne pouvez pas balayer d'un revers de la main en disant que ce n'est pas un théâtre de l'incarnation. Oui, peut-être, mais ce sont des pièces qui font réfléchir, ce sont des pièces qui sont d'une très grande valeur. Vous avez... Dans un genre, alors à l'autre bout de l'échelle, on peut dire un genre beaucoup plus léger, mais quelque chose qui est très très populaire, enfin qui l'était, c'est un peu moins vrai maintenant. Toutes les pièces de boulevard d'un Feydeau, d'un Labiche, on se les rappelle quand même avec plaisir, parce que donc je trouve qu'il faut avoir quand même, il y a toute une palette dans ce qui est le théâtre. Et puis il y a aussi des nouvelles formes. Moi je suis allé il n'y a pas très longtemps. Alors vous allez hurler parce que c'est un spectacle, c'est pas du théâtre proprement dit. Mais vous savez que vous avez au château de Versailles, vous avez un parcours qui est très, ça a énormément de succès, où les gens vont de pièce en pièce dans les grands appartements. Il y a des ballets, ils sont au milieu des acteurs qui il y a tel ou tel, c'est du produit marketing. Hein, je suis bien d'accord avec vous, mais ça a quand même un avantage. Les jeunes Français à qui on n'a jamais parlé de notre histoire, d'un seul coup, ils découvrent la grandeur de l'histoire de France. Et d'un seul coup, ils ont envie. Je crois qu'il y a même, il me semble qu'au château de Versailles, moyennant des sommes absolument phénoménales, je crois que c'est quasiment 800 euros, 900 euros l'entrée, il y a des soirées où vous devenez déguisé comme à l'époque de Louis XIV. Et là, pour le coup, le public s'y intéresse. Donc il y a des nouvelles formes. Je ne dis pas, évidemment... C'est très différent de ce que vous faites, je suis d'accord. Mais je trouve, à partir du moment où les gens s'intègrent, enfin réfléchissent, que ce soit avec le théâtre grec, que ce soit avec votre théâtre de l'incarnation, et je l'ai dit, je suis allé voir votre pièce que j'ai trouvée effectivement dure quand même, qu'il y avait, des
c'était quand elle même, est dure parce que la vie est dure.
Oui, tout à fait. mais j'ai beaucoup apprécié d'aller voir votre pièce. J'ai apprécié, vous ne pourrez pas dire le contraire quand même, d'aller voir la pièce avec De Gaulle. J'apprécie aussi quand je suis allé à...
Bien entendu.
Quand je suis allé à... Par exemple, au Château de Versailles, vous avez aussi à l'Opéra. Vous avez, tiens, en ce moment, enfin, ça se termine. Mais... Il y a le bourgeois gentilhomme, je crois, qui est joué dans l'Opéra de Versailles de Louis XV. Il y a tout également un décorum, il y a toute une espèce de plongée historique qui fait que les gens... sortent de leur vie quotidienne. Il y a ça quand même fondamentalement qui doit être, qui fait partie à mon avis
le mot est très juste, sortir.
Voilà. Sortir de sa vie quotidienne.
C'est-à-dire que exactement ce qu'il ne faut pas faire.
Voilà. c'est redoutable, Jean-Luc est toujours redoutable.
D'accord. Chacun a son point de vue.
Mais en même temps, ça titille la curiosité. Mais c'est quand même ça qui est important.
Mais bien entendu, bien sûr. Mais il ne s'agit pas de dire que les autres arts n'ont pas d'intérêt. Bien sûr que les autres arts ont un intérêt. Moi, j'adore. Je lis 2 livres par semaine, j'adore la littérature, c'est pas la question. La question n'est pas là. La question, c'est la spécificité du théâtre. Vous parliez tout à l'heure de La Biche et de Feydeau. Le théâtre de Feydeau est un théâtre, quand on le met bien en scène, parfaitement incarné.
Mais c'est vrai.
Ah,
mais parfaitement incarné. Et quand
total.
Il est vraiment incarné, et pas monté en caricature, comme souvent c'est fait, c'est passionnant. C'est passionnant, c'est d'une justesse absolue. Le petit-fils de Feydeau me racontait, par exemple, juste avant de mourir, à quel point les dernières pièces, on purge bébé, c'était Feydeau avait décrit sa famille. Tout simplement. La réalité d'une chose. Voilà. Alors, le rire, ça fait partie de la vie. On est triste, on rit, voilà. Donc c'est très bien, et puis c'est très bien qu'il y ait des gens qui ont, comme dans la vie, qui vont mettre l'accent sur le rire, d'autres qui vont mettre l'accent sur la tragédie, parce qu'ils ont une âme un peu grave, d'autres ont une âme un peu légère, dont une âme... C'est l'humanité dans sa globalité, et c'est fondamental qu'il y ait des Feydeau, des Labiche, des Guitry, je vais faire sans doute une intégrale Guitry, j'adore Guitry, j'adore les auteurs drôles, voilà. Mais... Pour prendre un exemple extrêmement concret, Molière. Bon, vous voyez, Molière, et vous allez comprendre un peu la différence. Molière, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des chefs-d'œuvre qui sont le Misanthrope, qui sont les Femmes savantes, qui sont Tartuffe, voilà, bon, entre autres. Ce sont des pièces qui sont incroyablement incarnées. Bon, et puis à côté de ça, là, c'est pleinement incarné. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer Alceste, on peut rencontrer Célimène dans la rue. Une Célimène d'aujourd'hui, une Alceste d'aujourd'hui, et qui parle comme ça. Bon.
Un Tartuffe.
Il y en a plein.
Surtout sur la scène politique française.
Donc, on en rencontre, voilà, on l'a. Mais ensuite, à côté de ça, il a écrit des farces.
Oui, les Fourberies de Scapin.
Les Fourberies de Scapin, par exemple. Les Fourberies de Scapin, c'est une pièce très intéressante parce qu'elle elle montre bien, parce qu'il y a une partie des personnages qui sont incarnés et une partie qui ne sont pas incarnés. Donc, les pères, par exemple, sont des archétypes. Et Scapin est vraiment incarné, vraiment écrit. Vous voyez ? Mais ce qui est intéressant, c'est le personnage qui est incarné. C'est pas la caricature, c'est pas les... Vous voyez ? C'est ça qui est fort et c'est ça qui nous est essentiel. Mais quand c'est des distances, qui ne veut pas dire que ce ne soit pas agréable de voir les Fourberies de Scapin ou agréable de voir une farce de Molière. Voilà.
Mais
le grand progrès... Le grand progrès, ça a été...
Mais quand vous avez des spectacles, par exemple, d'humoristes... avec des caricatures, ça fait quand même réfléchir, ça fait rigoler, réfléchir.
Mais c'est autre chose, c'est un autre métier. Moi, je suis très ami avec Jacques Maillot, par exemple, qui est pour moi un des hommes les plus, des chansonniers les plus extraordinaires qu'on connaisse. Il était ici il y a quelques mois. Et Jacques est un type absolument merveilleux, et c'est un bonheur d'aller aux deux ânes, écouter, voilà, ça c'est pas le propre, mais c'est autre chose.
Et d'une certaine façon, c'est incarné aussi, puisqu'il joue véritablement tel ou tel...
Oui, mais c'est pas un personnage, c'est pas un personnage. De la même façon, regardez, là, vous venez de lire un extrait.
Oui.
Moi, en ce moment, je lis Proust. Je lis tout Proust, en ce moment, au Nord-Ouest. Une lecture du chef-d'œuvre de Proust. Bon, mais je ne suis pas comédien, là. Je suis interprète. Je suis comme un musicien qui joue. C'est-à-dire que, voilà. Mais je ne deviens pas le personnage. C'est pas tout le travail qu'on fait quand on fait une mise en scène, c'est que on essaye d'amener un comédien à devenir le personnage, pour qu'il soit uniquement le personnage. Et le personnage, c'est quoi? C'est un être humain, un autre soi-même. qui est en face de soi. Et c'est là où le théâtre est essentiel.
C'est l'histoire du paradoxe, de s'emplir, de se vider de soi et de se remplir de l'autre.
Quoi. Exactement, mais se vider de soi et se remplir de l'autre.
C'est pas,
ça, c'est le paradoxe. Oui, mais alors ce que vous reprochez, en fait, c'est, si je comprends bien, c'est plutôt une mauvaise direction d'actrice ou d'acteur dans une configuration qui pourrait être tout à fait une scénographie hallucinante, tout ce qu'on veut. Mais on a besoin d'être touché. Donc c'est une direction du jeu.
Oui, bien sûr qu'il y a un problème de mise en scène, de direction d'acteur, mais il y a des textes qui ne permettent pas l'incarnation. Ouais. D'ailleurs, au Théâtre du Nord, vous avez bien vu pourquoi je fais des intégrales quand vous les regardez. Mais je ne ferai pas une intégrale Ionesco, par exemple. Pourquoi je ne ferai pas une intégrale Ionesco?
Ce
n'est pas le problème de Ionesco qui a du talent, évidemment. Mais Ionesco ne fait pas un théâtre d'incarnation. Dans son écriture, c'est une écriture qui est déjà distancée,
là,
à sa façon.
Oui, là, on rejoint les politiques
grossissantes,
Ionesco.
Si vous voulez. Ce qui ne veut pas dire que ça ne manque pas de... Moi, ça m'ennuie, hein, parce que quand on voit, pour moi, quand c'est pas incarné, ça piétine, on a compris la forme, et puis ça n'évolue pas, et alors que l'être humain, c'est la seule chose passionnante sur la Terre, quoi, je veux dire.
Oui, alors...
Voilà. Je crois que tout est dit, là, je crois, à mon avis.
Alors, comme le sujet étant le théâtre et la politique, c'est quand même des arts, si on peut dire, très très différents, parce que un responsable politique, la plupart d'entre eux en tout cas, il veut d'abord et avant tout être élu. C'est pas toujours vrai. Mais
non, c'est pas toujours vrai.
Il y en a qui veulent, mais il y en a qui ont un message à porter, il y en a qui ont une vision du monde, il y en a qui proposent des solutions. Moi, je me classe plutôt dans cette catégorie. Hein, je préfère, comme disait un politique célèbre, je préfère être battu sur mes idées qu'être élu sur les idées des autres. La grande majorité des hommes et femmes politiques, c'est qu'ils sont prêts à tous les changements, à tous les discours ambivalents, à toutes les caricatures, à toutes les faussetés. Enfin, par principe, parce que effectivement, pour être élu, quand vous voyez un pays extrêmement diversifié, extrêmement contradictoire en lui-même, hein, on n'est pas la France, c'est pas le Japon, c'est un pays ou deux pays des Gaulois, chacun a son point de vue, etc. Donc, pour arriver à être élu, la plupart des responsables, enfin tous les responsables politiques d'ailleurs, mentent en fait. Ils sont obligés de tenir un discours de caméléon en disant à chacun ce qu'il veut entendre. Ce qui fait au bout du compte des désillusions tout à fait extraordinaires. Si vous y réfléchissez bien d'ailleurs, je crois qu'on peut dire honnêtement, sans parti pris, que De Gaulle, qui est quand même le plus grand homme politique français du XXe siècle...
Nous sommes bien d'accord, et pas seulement du XXe siècle.
Oui, enfin, l'un des grands dirigeants français de notre histoire. Mais il en a eu d'autres. Mais De Gaulle, il faut définir les choses telles qu'elles sont. Il est arrivé au pouvoir à deux reprises par des espèces de coups d'État.
Bien sûr.
Que ce soit avec l'appel du 10 juin 40 ou que ce soit avec la crise de 58. Et la seule fois de sa vie où il s'est présenté au suffrage universel, c'est-à-dire en 65. Bon, il avait été victime du péché d'orgueil. Il avait refusé de faire campagne. Il pensait que le peuple français... Il avait une vision à la Charles Péguy de la France, du corps mystique de la France, etc. Ben, il a été contraint de constater qu'il avait fait que, si l'on peut dire, 44% des voix au premier tour. Donc, vous savez qu'il avait failli d'ailleurs démissionner à cette occasion lors du premier tour d'élection présidentielle. C'est la seule et unique fois où il s'est présenté au suffrage universel. Eh bien, il n'a pas franchi le premier tour. Ça prête à réflexion. C'est-à-dire que vous avez le peuple français qui a voté à 67% pour Macron en 2017, uniquement à l'issue d'une campagne de comment dirais-je de propagande extravagante où l'on a fait croire au peuple français quelque chose qui était faux, quelque chose qui n'existait pas. Alors qu'il me semble quand même qu'on peut dire, même si encore une fois, bon, De Gaulle, il a des zones d'ombre, hein, comme tout le monde. De Gaulle, il était quand même entré en politique, si j'ose dire, par la grande porte, c'est-à-dire par des idées fondamentales sur la survie de la nation. Aujourd'hui, De Gaulle, ne serait jamais invité sur les médias mainstream.
Oh ben ça, c'est évident.
C'est aussi clair que ça. Et donc aujourd'hui, parce que maintenant il y a eu des progressions constantes de la programmation neurolinguistique, des manipulations de l'opinion, etc. Et l'on voit bien comment les grandes forces, les puissances d'argent, comme disait le programme du Conseil national de la Résistance, ont mis la main sur l'imaginaire collectif et essaient d'orienter les Français vers quelque chose qui n'est pas ce qu'ils veulent, en fait. Donc il y a un problème fondamental, et là, ce que je ressens en vous, que j'avais vu d'ailleurs dans votre pièce, c'est l'idée d'une honnêteté foncière, d'une authenticité profonde. C'est le contraire même de la scène politique. La scène politique, je suis payé pour le savoir. Enfin, je suis pas payé d'ailleurs pour le savoir. C'est-à-dire, je sais que quand on veut être authentique, quand on dit les choses au fond avec le cœur, et quand on avec toute son intelligence, sa foi dans notre pays, la gratitude que l'on doit avoir vis-à-vis des 40 générations qu'ont fait la France, etc. Vous faites complètement écarté, mis de côté au profit des greffins, en fait. Hein, voilà. Donc là, on se retrouve tout à fait, je suis d'accord. Il y a chez vous cet esprit, une espèce de, comment dirais-je, de soif d'absolu, un petit peu. Un petit peu, quand même.
Soif de relatif, surtout, je suis catholique, vous savez. Donc, quand on est catholique, on est dans le relatif, uniquement. Oh, oui,
mais on y viendra dans cette vérité, parce que moi, je pense que les humains, on est en expérience sur cette terre, et on y arrivera. Et avec des gens comme vous et comme vous, sur la vérité, après, on n'est pas obligé de partager vos points de vue, bon. Mais sur la vérité, je pense que les gens ont une soif absolue de ça, parce qu'ils n'en peuvent plus de se faire avoir. Et les 67% de Macron, je pense, sur combien de Français, en fait? En fait, il a été élu avec zéro, quoi, avec rien. Enfin, avec
oui, il y a quand même... Non, il y a quand même eu... Oui, il y a quand même eu...
Il y a beaucoup d'abstention, etc. Pas en pied de manipulation. Bon. Mais je pense que moi, voilà, je suis candide, donc je représente un peu... J'en ai marre, je voudrais de la vérité, même si elle n'est pas jolie, et ben je veux qu'on me dise la vérité.
Alors oui, je pense que ça progresse, effectivement, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent un mensonge qui rassure plutôt qu'une vérité qui dérange.
Puisqu'on monte Musset en ce moment, vous connaissez ce mot de Musset. Enfin, quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûté.
Ah, c'est ça.
Puis il y a le mot de Dostoïevski qui est encore plus intéressant et qui dit « Si je savais que le Christ était en dehors de la vérité, je choisirais de suivre le Christ plutôt que la vérité. » Ça, c'est dans les possédés. Moi, je suis catholique. Hein.
Oui.
Donc la vérité...
En tout cas, pas quelqu'un qui mente effrontément et qui manipule.
Ouais,
parce que la vérité, mon Dieu, qu'est-ce que c'est?
Il y a quand même un critère pour trouver la vérité.
C'est ce
proverbe égyptien que je cite souvent. Le principal atout de la vérité, c'est qu'elle dure. Voilà. C'est que quelque chose qui est faux au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, tout s'effondre, en fait. Voilà. Le personnage, je revoyais là, le personnage qui est un personnage qui est une horreur, en fait, si vous y réfléchissez bien, le personnage de Macron. Quand vous reprenez, d'ailleurs, il est un peu comme dans le portrait de Dorian Gray. Ah, si vous voyez sa transformation physique en 8 ans.
Il est le tableau de Dorian Gray.
Ah oui, c'est
le pouvoir tue. Le pouvoir
non, mais là, il était un
au
jeune.
Macbeth au milieu du guet.
Il était un jeune, ben, comme ça. Il était jeune, ben, beau, enfin présenté comme beau. Enfin, elle est pas regardée de trop près, mais enfin, parce que moi j'avais vu sur une scène de. Il était très, très maquillé, surtout. Mais c'était la jeunesse, c'était le Mozart de la finance, etc. Quand vous voyez ce que c'est devenu aujourd'hui, mais il a pris, en 8 ans, il a pris 25 ans, physiquement. C'est vraiment impressionnant, je trouve. Et maintenant...
Et vous croyez que c'est parce que c'est le mensonge qui l'a transformé? Vous allez peut-être un peu
non,
loin.
Non, je pense qu'effectivement...
Je n'ai pas une passion spécifique pour Macron.
Quelqu'un qui vit en permanence dans la fausseté, dans l'artefact, il vit dans un Regardez là encore, s'il vient en Inde, il va en Inde.
Moi, ce que je lui reporte surtout, c'est de parler anglais. Mais enfin...
Oui, mais d'accord, mais ça va de pair. Mais là, il va en Inde, qu'est-ce qu'il fait? Il a 3 jours sur place. D'ailleurs, on attend de voir les fameux contrats, hein, parce qu'en plus de ça, moi, je connais bien le monde indien. À mon avis, les fameux contrats sur les Rafales, j'attends encore de voir. Bon, mais enfin, il est allé parce qu'il tombe dans toutes les choses trappes. Il ne connaît rien aux questions internationales, et donc il va là-bas au lieu de demander d'aller voir, je sais pas, le rôle qu'il doit. C'est un mot de quasiment de théâtre. Mais le rôle qu'il doit tenir en tant que chef d'État, c'est d'aller voir la communauté française, c'est d'aller voir les implantations françaises Corrèze en Inde. C'est d'aller voir, on a fait, Dumèze avait construit par exemple des barrages dans l'Himalaya, il aurait pu y aller, il aurait pu voir des coopérations scientifiques. Non, il décide.
Et favoriser la langue française, contre l'anglais, oui. Ça c'est un des.
C'est vrai.
Ça c'est une des choses les plus graves.
Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un temple sikh. De la religion du sikhisme, vous savez, ça a été fondé par Guru Nanak au 18e ou 17e siècle à Amritsar. Moi, j'étais allé à Amritsar dans le temple d'or. Mais là, c'est un des grands temples sikhs de l'Inde qui est à New Delhi. Mais pourquoi il va voir? C'est une religion ultra minoritaire. Et en fait, c'est le principe de. On a l'impression qu'son guide pour son voyage, c'est le guide du routard. Donc, il va voir, ça l'amuse d'être pieds nus, il s'est habillé en pyjama, ça a gêné les gens qui l'accueillaient, il s'est fichu un foulard sur la tête, il est ridicule, en fait. Vous l'avez vu, cette photo qui circule avec sa femme, il joue un rôle d'une pièce, mais il est faux, tout est faux chez Macron. Et je pense qu'il y a, contrairement à ce que vous dites, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de Dorian Gray, c'est-à-dire qu'il porte maintenant les stigmates sur son visage de quelqu'un qui ne vit pas, qui vit dans la fausseté, sans compter les moyens psychotropes qu'il a pour surmonter tout ça.
Hein. Et pour abonder dans votre sens, moi, mon professeur Jean Périmoni disait « À 20 ans, on a le visage qu'on a, et à 40 ans, celui qu'on mérite. »
Ah, c'est beau comme formule.
Et je pense que ce n'est pas faux.
Ben regardez, les grands mystiques, souvent, ils ont un visage très apaisé à 70, 80 ans. C'est vrai, ils dégagent quelque chose.
C'est tenté que. Ouais.
Ils dégagent quelque chose.
Et peut-être que ce n'était pas le mot vérité qu'il fallait dire, en effet, parce qu'on est 8 milliards, il y a 8 milliards de vérités, comme un miroir brisant 8 milliards de morceaux, mais peut-être le mot sincérité ou honnêteté.
Oui, voilà, c'est beaucoup. Parce que vérité, regardez l'utilisation qui est faite de la vérité aujourd'hui.
Oui, tout à fait, tout à
maintenant,
fait.
Vous n'êtes pas d'accord. La loi va nous dire où est la vérité. Je veux dire que c'est hallucinant.
Oui, ça, c'est parce qu'on est dans une dérive totalement.
C'est complètement insensé.
Oui, oui.
Je veux dire que si on
c'est la novlangue,
si dans ce pays, on
n'a
plus le droit de dire des conneries, alors je peux avoir le droit de dire que la Terre est plate, même si c'est une connerie, et ne pas aller en prison pour autant. Enfin, on arrive à des trucs, et puis d'autant qu'on s'aperçoit quelquefois que ce que qu'on croyait être un mensonge devient une vérité, et ce qui est une vérité devient un mensonge.
Non, mais le mot honnêteté, voilà, ouais,
sincérité, oui,
c'est ça.
Vérité,
c'est ça,
non.
Parce qu'on peut se tromper, effectivement, mais...
Bah, oui, et la société aussi peut se tromper, puis on ne sait pas tout.
Bien sûr, évidemment, dans l'apprentissage constant.
Je ne sais pas, dans l'affaire Epstein, par exemple, en ce moment, qu'est-ce qu'on en sait, nous? On en sait un petit peu, mais on sait rien, on sait bien ce que certains nous disent, c'est tout.
Et même puis, scientifiquement, et voilà. Même, voilà, on découvre.
Alors effectivement, si on est comme vous, très, très axé, très anti-Macron, on va dire, si Macron dit ça, ça va être un mensonge.
Il est rare.
Il a quand même des qualités, cet homme aussi.
Ah, vous trouvez? Non, moi je ne lui en reconnais absolument aucune. Non, honnêtement, je pèse mes mots, je pense que c'est le pire chef d'État que la France ait connu dans son histoire. Peut-être à l'exception de Charles VI. Vous savez, le traité de Troyes qu'il avait donné à France en 1420. Il était fou, Charles VI.
Oui.
Et
non,
il avait une épouse, Isabeau de Bavière, qui le poussait justement à détruire le pays, en fait, à se soumettre au Royaume-Uni. Mais là, je ne sais pas.
Il nous ramène au théâtre parce qu'il nous ramène à Ruy Blas. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres. Et
conseiller
vend,
vertueux.
Voilà, il vend le pays. Voilà, il nous ramène. C'est Ruy Blas en ce moment.
Oui, vous lui prêtez
Macbeth même. Macbeth et Ruy Blas, voilà.
Non,
c'est horrible.
Le grand reproche, enfin, pour moi, le seul reproche que l'on puisse faire, le vrai reproche, c'est d'avoir américanisé la France. C'est cette langue anglaise qui nous grignote, qui est en train de tuer l'essence même de ça. D'avoir, par exemple, une loi hallucinante, d'avoir maintenant obligé... l'anglais comme première langue obligatoire, c'est une folie complète. D'abord, en plus de ça, c'est même sur le plan technique, c'est stupide, parce qu'il vaut mieux apprendre l'allemand, et quand on parle allemand, ensuite on apprend plus facilement l'anglais. Ah oui, bien sûr.
Obligatoire.
Ah oui, bien sûr. L'anglais, première langue obligatoire, par pragmatisme, parce que c'est la langue de là. Voilà, ça c'est grave. Et de liquider la francophonie comme il le fait, ça c'est grave.
Mais c'est même pire que ça, parce que il a quand même fait le musée là.
Oui, vous êtes ridicule.
Pour célébrer la francophonie, c'est un gouffre financier. Ça prouve qu'en fait, il a même pas. C'est rien, en fait, oui, Macron. C'est une espèce de bouchon sur l'océan. Il est là et il ne doit rien au peuple français. Il n'a pas été élu par un mouvement réellement sincère du peuple français. Il a été élu par une manipulation. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'il faut, c'est triste de pleurer sur le lait renversé, mais il faut que les Français voient ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, quel est le Macron qu'on nous prépare pour 2027? Voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous prépare pour 2027? Hein, quels sont? Et là aussi, les grandes fortunes qui sont derrière les grands médias ont leur Macron, ça y est. Alors, il y a des ajustements, ils ont deux, trois personnes sous la main. Mais enfin, ils promeuvent quelques personnalités en entourant ça d'un discours extraordinairement laudateur, absolument complètement coupé des réalités. Et puis il y en a d'autres qui sont complètement cachés. Donc il n'y a plus de débat politique en France. Il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus d'honnêteté.
Là, vous parlez très concrètement de qui?
Je pense que quelqu'un comme Bardella. Est-ce que vous imaginez en France, je pense que les gens qui poussent Bardella veulent vraiment humilier jusqu'au dernier degré la France. Je rappelle qu'en ce moment, les grands chefs d'État, que ça plaise ou que ça plaise pas, ou qu'on est pour ou qu'on est contre, c'est un fait. Les plus grands chefs d'État du monde aujourd'hui, Poutine qui a 72 ans, Xi Jinping qui a 73 ans, Narendra Modi qui a 80 ans pour l'Inde, Trump qui a 79 ans aux États-Unis, ce sont des gens qui sont en train de changer complètement le monde et qui sont à la tête des plus grandes puissances. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde, sauf peut-être le roi de l'Eswatini, vous savez, dans le nouveau nom du Swaziland. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde qu'on mette à la tête d'une puissance comme la France, qu'on mette quelqu'un comme M. Bardella qui a 30 ans. Quels que soient ses mérites ou ses défauts par ailleurs, n'a pas l'expérience nécessaire. Ça veut dire qu'il sera comme Macron, il ne se ressentira aucune responsabilité vis-à-vis des Français qui l'auront formellement élu, et il se sentira redevable par rapport à ceux qui l'ont fait roi. C'est ceux-là qui choisissent. Et il suffit en France, malheureusement, et ça c'est un vrai problème, il suffit en France de faire du lavage de cerveau avec des promotions médiatiques, avec des promotions sondagières, vous faites élire n'importe qui. On l'a vu en 2017, je crains qu'on ne le revoie en 2027. Donc là, on est vraiment en quête d'authenticité, de sincérité.
Mais là ça touche un autre problème, ce qui est le problème de l'utilisation de la loi. Parce que, regardez ce qui se passe, on parle de Bardella, mais Marine Le Pen qui risque de ne pas se présenter, c'est ça, le scandale, il est là. C'est tout d'un coup, ce n'est plus nous qui votons, c'est les juges qui décident. Ça, c'est extrêmement grave.
Mais là, est en train d'être éliminée la droite extrême, on va dire, la gauche extrême, et en fait c'est le chemin tout tracé pour Macron bis
per saltos. Mais surtout ce qu'il faut, enfin c'est normalement, si on est en quête d'authenticité, de vérité, normalement dans une démocratie, il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas une connaissance, un consentement éclairé sur les différents candidats qui se présentent devant eux. Voilà. C'est pas normal qu'en France, il y ait des candidats qui n'aient pas le moyen de se faire connaître. Voilà. Parce que on est face à
une tromperie. Vous allez rejoindre mes théories. Moi, je pense qu'il faudrait instituer un troisième tour. Alors donc.
Ah, je suis d'accord avec vous, tiens. Ouais. Voilà. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il faudrait. Mais moi, ce qu'il faudrait surtout, c'est que déjà, il y a plusieurs mois. Voilà. On voit, par exemple, sur la scène politique française, ce théâtre-là, ce théâtre d'ombre auquel on assiste, on nous montre des gens comme M. Dominique de Villepin, comme M. François Ruffin, Mme Delphine Bateau, M. Patrick Sébastien, des gens qui, tous les jours, on voit arriver son lot. Ce sont des gens, je peux vous le dire, qui ne seront pas candidats. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il faut quand même rappeler que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir 500 parrainages. Voilà. Et la clé, et les journalistes ne font absolument pas leur métier. Au contraire, ils font du brouillage comme M. Philippe de Villiers, qui a d'ailleurs à deux reprises a dit qu'il ne serait pas candidat. Ils font du brouillage pour que, pendant qu'on parle de Philippe de Villiers, de Dominique de Villepin, on ne parle pas, excusez-moi de le dire, on ne parle pas d'Asselineau. On l'avait déjà vu en 2016. En 2016, nous, on cherchait les parrainages. Il y avait sur ce théâtre, c'est un théâtre d'ombre, on parlait aux Français tous les jours de Montebourg, qui était le ministre qui avait voulu redresser. Et on savait qu'il ne cherchait pas ses 500 parrainages. Tous les journalistes que je rencontrais, je leur disais, mais allez vous renseigner, allez voir. Il ne les cherchait pas. Il n'a pas été candidat. Sauf que pendant toute l'année 2016 et début 2017, on n'a parlé que de lui et moi, je n'existais pas. Et au dernier moment, quand j'ai été candidat, moi, j'avais que 4 semaines et 0,8%. Il est là. Là, on a affaire vraiment, puisque vous cherchez la vérité et l'authenticité. Tiens, il faudrait faire une idée de pièce de théâtre. Je vais même vous donner des idées. Faire un truc sur la démocratie à la française. Comment on manipule l'élection présidentielle.
On va en parler dans 2 minutes parce que, vous savez, nous sommes sur cette radio libre qui a besoin de quelques sous pour continuer à exister. Donc voilà, je laisse la parole.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, alors maintenant on va pouvoir reprendre, mais on a un petit peu perdu le fil quand même de ce que nous étions en train de dire sur le théâtre.
Je vais vous relancer
avec une jolie phrase qui va vous mettre d'accord, enfin si j'ose dire, revenir au théâtre. Les racines de la Bruyère, Boileau de la Fontaine, Molière.
Ah oui, c'est voilà.
Mais il manque Corneille, hein.
Il manque Corneille.
C'était la Corneille, Boileau. Moi, c'était mon père qui m'avait dit ça.
Les racines de la Bruyère, Boileau de la Corneille se pose sur les racines de la Bruyère, qui Boileau de la Fontaine, Molière.
Oui.
C'est quand même joli pour tous les jeunes enfants.
Mais il est évident qu'il y a un rapport très, très, très clair entre les hommes politiques et puis le théâtre, ne serait-ce que comme pour les avocats, ne serait-ce que pour faire passer. Parce que là aussi, c'est quand même extraordinaire de voir à quel point il n'y a plus de tribuns, ou très peu de tribuns. C'est des gens qui parlent, qui sont capables de faire vibrer une salle, de faire vibrer... Par exemple, Zemmour, par exemple, s'est tué complètement par son incapacité à parler publiquement. Je ne parle pas de ses idées, mais la forme aussi, elle est importante. Et le théâtre, ça sert aussi, ça peut aussi savoir bien parler, savoir mettre du sens.
Je suis tout à fait d'accord. Il y a une... On pourrait comparer l'homme politique d'aujourd'hui d'abord à un acteur qui, dans la version de Diderot, qui est totalement déconnecté de ce qu'il dit, mais aussi à un avocat. C'est exactement ça. Moi, je me rappelle une anecdote qui est assez extraordinaire, parce qu'on touche toujours la question de la sincérité et de l'authenticité. Je me rappelle une anecdote, c'est en 2016. En 2006, juste avant l'élection présidentielle de 2007, ou début 2007, il y avait Sarkozy qui est reçu par Arlette Chabot. Et à un moment, il y a Arlette Chabot qui lui dit vous n'allez pas parler de l'euro pendant cette campagne. Et il y a Sarkozy qui dit « Comment ça, Madame Chabot ? Vous croyez que je vais pas parler de l'euro ? Vous croyez que les Français sont satisfaits de l'euro ?» Vous croyez que les Français n'ont pas vu l'inflation, leur baisse du niveau du pouvoir d'achat? Mais bien entendu, je vais parler de l'euro, Madame Chabot. J'avais des amis qui me disent le lendemain, t'as vu quand même, qu'est-ce qu'il lui a mis sur l'euro quand même? J'ai dit, mais attendez, il a rien dit. C'est de la pure manipulation. Ça veut dire quoi? Vous croyez que je vais parler de l'euro? En réalité, Sarkozy, il a fait quoi? Il a tout simplement fait adopter le traité de Lisbonne pour faire avaler au peuple français ce que les Français avaient rejeté par référendum le 29 mai 2005. Donc, c'est vrai qu'il y a des ruses, mais des ruses que les Français, le peuple français est souvent naïf, si vous voulez. Il croit qu'à partir du moment où quelqu'un tape sur, par exemple, les gens qui me disent, ouais, ah oui, ça y est, il a tapé sur l'Europe, c'est formidable, mais attendez, il faut aller regarder beaucoup plus, de façon beaucoup plus précise. Les Français sont un peuple un petit peu comme les peuples catholiques romains, hein, les peuples du sud de l'Europe, des peuples de dogme, c'est un peuple qui se précipite, qui saute parfois un peu vite aux conclusions, sans entrer dans le détail, alors que vous savez ce que disent les Allemands, hein, « Der Teufel liegt im Detail », le diable réside dans les détails.
Bien sûr.
Voilà. Donc il est là, et là il faudrait vraiment que les Français, qui sont capables de consacrer des heures et des heures pour chercher leurs nouvelles vacances, ou leur nouveau week-end, ou pour changer, ils veulent changer de télévision, ils vont passer des heures à compulser des quantités de trucs, quand il s'agit d'élire un président de la République... Et ils agissent comme ça, de façon un peu presque prime sautière. Ah ben j'ai toujours voté à gauche, donc je vote à gauche. Ah ben non, moi c'est Bardella. Ah non, moi c'est Zemmour, ah non, moi c'est Édouard Philippe, moi c'est Retailleau. Mais ils sont même pas allés. Nous, on essaie de bâtir un discours de réalité, d'honnêteté, de sincérité, de faire un peu ce que vous faites, si vous voulez, c'est de laisser tomber les faux-semblants dans votre pièce. Nous, on essaie de dire, mais attendez, monsieur Retailleau, il ne pourra pas faire ce qu'il dit. Tous ceux qui restent dans l'Union européenne ne pourront même pas toucher aux questions migratoires, puisque c'est la Commission qui fixe le nombre de personnes qui entrent en Europe, 4 millions de migrants par an. Et quand on dit ça, c'est comme si, effectivement, on a un peuple qui est un peu... Oui. Comme si on leur disait, le Père Noël n'existe pas, ouvrez les yeux. Donc, moi, peut-être que j'ai un peu le même rôle en politique que le vôtre, si vous voulez, c'est-à-dire de dire des vérités qui sont un peu désagréables. C'est un peu comme quand on va voir votre pièce, c'est désagréable.
Qui nous mettent face à nos responsabilités.
Oui. Mais... vous savez que ce beau... Alors, c'est pas un proverbe égyptien, c'est un proverbe chinois qui dit... les choses qu'on a le plus de mal à apprendre sont celles qu'on a le plus d'intérêt à savoir.
Bien juste. La différence entre la politique et le théâtre, c'est que le théâtre peut montrer la politique. Mais est-ce que la politique peut montrer le théâtre?
Hein, c'est vrai.
Et c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut tout montrer. Et on a, voilà, c'est une globalisation. C'est pour ça que c'est essentiel à la cité. Et sur le plan par exemple, il y a le bouquin là que j'ai écrit là que vous lisez qui s'appelle pour en finir avec les intermittents du spectacle. Ces débats contre pour l'intermittence. Mmh. Moi j'ai bien vu à quel point les politiques ne comprenaient rien. C'est le père d'Emmanuel de Chartres, Philippe de Chartres, qui avait convaincu De Gaulle de ce système des intermittences. Mais il était pourquoi? Pour que les artistes puissent continuer à travailler, à vivre. En sachant qu'un comédien, il n'est pas seulement sur un plateau, mais il est aussi à apprendre ses textes, à vivre les choses pour pouvoir... Voilà. Et ça permettait de voilà. Mais le problème, c'est que ce truc-là, c'est que c'est complètement perverti, parce qu'on a ouvert ça aux techniciens, qui n'a strictement plus rien à voir avec l'artistique. Voilà, c'est comme ça. Mais résultat des courses, maintenant, les hommes politiques, souvent les hommes politiques de droite disent qu'il faut attaquer l'intermittence du spectacle, c'est un scandale, il faut subir... ce sont des privilégiés, etc. Alors que ce n'était pas un problème de privilégiés. C'était un problème pour que nous puissions, les artistes, faire notre métier, alors que c'est un métier... qui n'est pas rentable, qui n'a aucune rentabilité, qui apporte à la cité, mais pas sur un plan financier, qui apporte à la cité sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan de la connaissance, sur le plan, etc. Nous ne sommes pas quantifiables.
Et même sur le plan économique pour les autres. Voilà. On l'a bien vu avec les grandes grèves d'Avignon, où les restaurateurs, les hôteliers, tout ça. Tout le monde perdait de l'argent parce que nous ne donnions pas de spectacle.
Oui, mais c'est même. Oui, mais ça, c'est un argument qui est dangereux parce que ce qui compte d'abord, c'est ce qu'on apporte de plus,
certes.
Qui n'est pas sur le plan économique. Bien entendu, quand il y a un théâtre, nous, on a un théâtre, évidemment, que ça permet aussi au restaurant d'à côté de recevoir du public un peu plus.
Nous ne pouvons pas tomber malade.
C'est-à-dire, mais ça n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce qu'on apporte, c'est pas ça. Ce qu'on apporte, c'est le miroir. Ce qu'on apporte, c'est la spiritualité. Ce qu'on apporte, c'est l'intelligence. Ce qu'on apporte, c'est la culture. Ce qu'on apporte, c'est tout ça. Voilà. Mais et là, je me dis, mais ils sont fous. Alors, ça devient un débat. La gauche qui veut garder l'intermittence, la droite qui veut la supprimer. On rentre dans un truc absolument ridicule, alors que le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune rentabilité dans un spectacle comme le nôtre. Dans un spectacle, dans un
théâtre,
métier comme le nôtre. Aucune rentabilité. On n'est pas fait pour ça. C'est comme les prêtres, quoi. Il n'y a pas d'économie là-dedans. Vous voyez ? Et moi, c'est pas pour vous contredire, Louise, mais c'est un discours que beaucoup de gens, et notamment des syndicats de comédiens, tenaient en disant « Oui, mais nous avons une force économique, ça. » C'est pas faux, mais c'est pas comme ça qu'on défend trucs.
C'est sûr. C'est juste parce qu'on disait que c'était des gens nantis, etc. Alors non, il y a beaucoup de gens qui crèvent de faim, et voilà. Mais en revanche, il y a tout un suivi derrière.
Et puis je peux vous assurer, côté du Nord-Est, on le sait, les difficultés de vie.
Mais pour revenir à l'essentialité de ça, on se rend compte aujourd'hui, que ce soit en psychanalyse, en psychothérapie, etc., on fait beaucoup de travail théâtral pour toucher l'âme des gens qui ne vont pas bien. On essaie de faire des jeux de rôle. Donc, c'est vrai que cette expression théâtrale, bon, ça c'est une autre forme bien sûr, mais ça veut bien dire, ça rejoint ce que vous dites, ça veut dire que l'image que l'on peut percevoir quand on fait une scène de jeu de rôle parce que quelqu'un a vécu quelque chose de terrible, bon, donc il y a une incarnation qui fait bien que sûr. Moi je peux l'entendre, je peux pas encore le comprendre en moi, mais je peux l'entendre, le recevoir, etc. etc. Ça aide énormément. Bah,
il y a je pense que vous êtes comme moi, vous adorez Dostoïevski.
Ah.
Il y a dans Souvenir de la Maison des Morts un moment absolument extraordinaire qu'écrit Dostoïevski. Il est au milieu de gens qui sont des criminels, des violents. Il est persécuté, mais vraiment persécuté complètement. Et puis tout d'un coup, il a eu l'idée de faire une pièce de théâtre avec ces gens-là. Et à partir du moment où la pièce de théâtre, ces gens-là, ils ont vu ce qu'ils faisaient, ils ont vu ce qu'ils étaient.
C'est ça.
Tout s'est apaisé dans le goulag. Ouais. Il raconte ça, c'est absolument merveilleux.
En médecine,
voilà, le théâtre sert à ça, quoi. C'est évident.
À exprimer ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors là, ça aide à exprimer.
Voilà, c'est important.
Oui, c'est important.
Et puis c'est important pour la cité, quoi, d'avoir ce miroir. On en a besoin. Si on n'a pas ça, voilà, à quoi on sert ? On sert à rien. On sert à rien. On sert à divertir, et divertir, tout à l'heure je vous ai repris sur le mot, pardon, mais divertir ça veut dire sortir d'eux.
Oui.
Voilà, sortir d'eux, mais non, il ne faut pas qu'on sorte du réel, il faut qu'on voit le réel. Mais le réel c'est quoi? Le réel c'est le péché, le réel c'est l'homme qui est aussi bien... Moi je suis catholique, on m'envoie souvent des pièces du saint machin, de saint truc, parce que je suis catholique. Ben non, je monte aussi bien le mystère de la charité de Jeanne d'Arc avec une sainte que Britannicus avec Néron qui est une horreur. On montre les turpitudes et les grandeurs.
Ou que la confession,
bontés,
d'ailleurs,
voilà.
Parce que ça a un démon.
Mais bien
aussi.
Sûr, c'est ça, le théâtre sert à ça. Il ne doit pas être moral, il ne doit pas être, si vous voulez, il doit juste être miroir.
Alors, il y a l'accession des jeunes générations au théâtre. J'ai vu là dans les statistiques qu'il y a, je crois, entre 10 et 13 millions d'entrées au théâtre en France chaque année. Ce qui fait que, comme il y a la moyenne des gens qui vont au théâtre, c'est, je crois, 6 fois par an, en fait, c'est quand même très minoritaire, le nombre de gens qui vont au théâtre. Il y a d'ailleurs une surreprésentation de jeunes et de femmes. Il y a 57%
femmes
de
sont femmes toujours plus remarquables, donc c'est normal.
Mais la question qui se pose, par exemple, pour un politique, puisqu'on parle politique, je pense que que vous insistez sur cette nécessité. Moi, quand j'étais jeune, il y avait à la télévision française, on voyait régulièrement des pièces de théâtre qui passaient à la télé. C'était pas toujours des choses extraordinaires. Il y avait beaucoup de boulevards, mais moi je me rappelle aussi d'avoir vu L'Avare à la télévision française. Enfin, c'est en prime time, comme on dirait, pour vous faire plaisir maintenant.
Oui,
à 20h30. Et en plus, sur la seule chaîne de télévision qui existait à l'époque. C'est-à-dire que toutes les. Je dis pas que c'est forcément bien, mais...
Non, parce que le théâtre filmé, c'est...
Oui, mais bon, oui, d'accord, mais
c'est autre chose.
Oui, d'accord, mais maintenant,
c'est un accès. C'est vrai que c'est un accès.
Mais maintenant, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien, et je pense... Est-ce qu'il y a... Il y a certainement à développer le théâtre, le goût pour le théâtre chez les jeunes générations, etc. C'est ça, c'est certain. De même, d'ailleurs, que le goût pour leur propre histoire, redécouvrir leur propre histoire. Voilà. Au passage, d'ailleurs, on est très franco-français ou européen ou occidental ou occidental. Moi, je trouve qu'il y a, en tout cas, c'était dans mon programme présidentiel, il y avait l'idée de renationaliser TF1 et de donner à TF1 un cahier des charges culturelles pour avoir pour objectif, de façon... comment dirais-je, faire de l'éducation populaire dans le bon sens du terme, d'ouvrir l'esprit des gens sur le théâtre, sur le monde d'aujourd'hui, le théâtre ou les films également. On est dans un univers complètement tourné vers le monde anglo-saxon. Le théâtre, c'est aussi le théâtre kabuki japonais, voilà, le théâtre no.
Voilà,
Non, vous n'êtes pas d'accord.
Mais oui, mais c'est plus de la danse que... C'est des formes de théâtre qui sont très distancées.
Ah non. Attends, le kabuki, mais non, pas du tout.
Enfin, on va en parler après, oui. Parce que vous savez que c'est une émission en direct.
Oui.
Voilà, il y a des auditeurs qui nous envoient. Alors, avant que ça se termine, il faut absolument qu'on réponde à leurs questionnements. Je les découvre devant vous, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, le théâtre sert à réfléchir car il nous tend un miroir, comme le roman et ce depuis des millénaires. Or, Oh, ça va vous faire plaisir. Des cultures étrangères installées sur notre sol proviennent de milieux où il n'y a ni tradition théâtrale, ni tradition romanesque. Il ne faut pas alors s'étonner si le sectarisme et la bêtise s'ancrent profondément dans notre pays. Et le spectacle télévisuel ou autre ne redressera pas la situation. Qu'en pensez-vous? Suis-je trop sévère? Réponse, non, vous n'êtes pas trop sévère, parce que c'est vrai. Bon, vous êtes d'accord avec moi, là, sur ce plan?
Oui, c'est un peu polémique, mais je suis assez d'accord, quand même.
Bon, très bien. Bonjour. Question de civilisation, oui. Je lis un autre intervenant. En inventant la société des loisirs, les socialos de Tonton, dont le Jack est le spécimen le plus représentatif, le pauvre, il en prend plein la gueule en ce moment, ont détruit toute décence en concrétisant le relativisme dans l'art. C'est pas faux. Faisant croire que n'importe quoi valait autant que n'importe quoi.
C'est tout à fait vrai.
C'est la démagogie incarnée, niant l'exception de l'artiste et du don. Et quand on voit les dernières photos de la chose, on comprend quelle est sa nature, celle du grand pourrisseur. Cette société, c'est celle du temps gaspillé, du graffiti sur la statue, de la satisfaction infantile, de la destruction prétendue créative, parfaite illustration de la culture de mort, qui n'est que la mort de la culture remplacée par le spectacle.
C'est malheureusement juste. Il y a aussi la notion d'effort. Qui est en train de déserter le monde occidental. Parce que dans tout métier, mais même à commencer par un auteur de pièces de théâtre ou par un acteur, il y a quand même beaucoup d'efforts.
Il y a ce qu'on appelle du travail.
Voilà, il y a beaucoup de travail.
Les gens seraient étonnés d'assister aux répétitions, de voir comment on arrive.
Moi, quand j'étais lycéen, j'étais un peu à 12-13 ans, j'ai suivi des cours de théâtre un peu. Et effectivement, c'est quand même un gros effort. Un effort pour un acteur déjà de mémoire. Et puis après ça, il faut donner. Enfin, il y a quand même tout un travail qui est derrière. Et ce qui est vrai du théâtre, c'est vrai aussi de beaucoup d'autres choses. Ah, maintenant, on a des œuvres d'art, d'art entre guillemets. L'artiste passe l'essentiel de son temps à justifier ce qu'il a voulu dire.
C'est ce qui se passait à une certaine époque. Bon, on va en reparler. Alors encore un autre intervenant. Bonjour à toute l'équipe. Alors avec Macron et Attal. Nombre de politiques contemporains sont passés par le théâtre dans leur cursus scolaire, surtout au centre-gauche. De lointains successeurs des élèves des collèges jésuites, en somme, il reste à voir si le monde politique ne se réduit pas à une forme d'histrionisme. Ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Très belle émission avec de l'originalité grâce à la présence de votre invité.
On vous flatte, là. Histrionisme, c'est bien dit, c'est ça. Histrionisme.
Vous savez que dans Je monte l'organisation en ce moment, et il y a... Le Strozzi dit à l'organisation, il faut sors de toi l'histrion.
Histrion.
Sors de toi l'histrion.
Je ne sais pas quel est l'auditeur, mais je trouve ça très juste. Ah, oui. Le mot d'histrion est un peu utilisé, mais qu'il faudrait remettre au goût du jour.
Chez Musset, il y a toujours la notion du double, du double négatif. L'organisation est une pièce absolument passionnante sur ce sujet. Mais qui nous est utile, qui est essentiel à la cité, c'est ça, moi, parce que, franchement, là, on parle, mais est-ce que vous entendez vos camarades qui se présentent à la présidence parler de théâtre et essayer d'expliquer à quoi c'est utile à la cité, ils s'en contrefoutent, Louise lisait tout à l'heure. Ils sont contre-foot, ça ne les intéresse pas. Et on donne des subventions, et de moins en moins d'ailleurs, parce que ça est un autre... On donne des subventions pour des gens qui font n'importe quoi aussi.
Alors ça, c'est aussi un vrai sujet, c'est les questions financières. C'est que la crise des finances publiques est dans ce qu'elle est, c'est que les finances de l'État sont forcément orientées à la baisse. Et il y a quand même une tendance à la substitution avec des fonds privés, avec ce qui se cache derrière, c'est-à-dire effectivement une tendance vers le spectacle commercial, mais qui attire des gens aussi. Moi, je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Je suis assez d'accord avec ce que disait Louise. Il y a aussi, à partir du moment où les gens, à mon avis, déjà font un effort, un tant soit peu, même aller voir une comédie musicale, c'est quand même un effort un peu culturel, un peu
réfléchir. Bande dessinée aussi.
Voilà, on est aujourd'hui.
Entre la bande dessinée et Dostoïevski, il y a quand même un monde.
Mais j'ai rien contre la bande dessinée. Et puis on a besoin d'accompagnement. Moi, je me rappelle quand j'avais lu L'Idiot de Dostoïevski. J'avais 16 ans. J'étais un peu resté à la surface des choses. Et puis après, j'ai eu un cours quand j'étais en prépa avec un prof qui était absolument extraordinaire et qui nous avait fait comprendre qu'en fait, l'idiot, c'était une parabole du Christ avec le prince Michkine et qui, chapitre par chapitre, nous montrait. Et j'avoue que c'est un des cours qui m'a le plus bouleversé parce que je me suis dit, c'est un peu comme Fabrice Del Dongo à Waterloo ou comme puisque vous lisez Proust, la Berma, c'est-à-dire que la première fois, on n'y comprend rien et c'est deuxième ou troisième fois qu'on commence à comprendre la profondeur d'une œuvre. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Donc, il y a besoin d'un accompagnement qui, notamment, c'est un accompagnement scolaire, mais je pense qu'il ne faut pas se moquer des gens qui vont voir du théâtre de boulevard, même qui vont voir des spectacles. C'est un peu déjà un début d'accès à se changer de la vie quotidienne quand même, à faire un effort intellectuel d'aller voir quelque chose, d'aller voir un spectacle.
Non, mais moi, ça a son rôle, bien entendu.
Ça a son rôle, vous êtes d'accord?
Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis, j'aime bien les autres arts, c'est par l'exemple. Voilà. Pour ceux qui voudraient découvrir Dostoïevski, quand on a 16 ans, il vaut mieux commencer par Crime et Châtiment.
Oui, ben j'avais commencé par Crime et Châtiment.
Parce que L'Idiot, évidemment, ou Les Frères Karamazov, ou Les Possédés, c'est beaucoup plus,
complet. Enfin, bon,
et puis alors, ensuite, il y a autre chose, c'est comme... Vous savez, un roman, c'est comme une pièce de théâtre ou c'est comme une histoire d'amour. Il y a c'est le mot de Baudelaire. Il faut une correspondance. Il y a une correspondance à un moment donné. Oui. Avec une œuvre qui va vous bouleverser, on la lirait 3 mois avant, ça ne passerait pas, 3 mois après, ça ne passe plus.
Moi, le prince Michkine, à l'époque, ça m'avait vraiment bouleversé.
Moi, je l'ai lu un peu plus tard. Mais je veux dire qu'il y a vraiment une correspondance. J'ai lu par exemple Stendhal et ça m'avait pas la Chartreuse de Parme, j'avais trouvé ça insupportable à 16 ans et puis je l'ai relu à 40 ou à 30 et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors que Le Rouge et le Noir, je l'ai lu à 16-17 ans, j'ai trouvé ça formidable, et je l'ai relu, ça m'a déçu.
Oui, c'est intéressant de vivre.
C'est des problèmes aussi de rencontre.
C'est vrai. De maturation, de maturation.
Comme dans l'amour, vous rencontrez la femme de votre vie, ou l'homme de votre vie, n'est-ce pas? Oui. Et à ce moment-là, trois mois avant, il ne serait rien passé, quoi. Parce que, voilà, c'est beau. C'est utile, c'est essentiel, tout ça. On a encore quelques minutes.
Mais alors, comment peut-on être catholique et aimer le théâtre? Puisque j'ai quand même pas rêvé que pendant des siècles et des siècles, la Sainte Église...
Et le théâtre est né sur le parvis des églises.
Oui, mais condamnait quand même l'activité théâtrale. Au point, si je parle sous votre contrôle, que les acteurs n'avaient pas le droit d'être enterrés. C'est ça.
Je vous dirais, lisez mes livres, parce que j'en ai écrit pas mal sur ce sujet... Il y a une raison très simple, c'est que au départ, il y avait des vrais théologiens. Le théologien qui a condamné entre guillemets Molière, il savait de quoi il parlait, parce que c'est pas rien de prendre le corps de l'autre.
Absolument.
C'est quelque chose d'incroyable. C'est comme un succube. Donc il y a quelque chose d'absolument abominable sur ce plan-là. Bon, et puis alors ensuite, on progresse, et puis on s'aperçoit. J'ai écrit assez de livres là-dessus. Que c'est notamment c'est Pie XII le premier pape qui a vraiment rétabli le théâtre. Mais on s'aperçoit d'une chose absolument incroyable, c'est que le théâtre sert le christianisme. Parce que qu'est-ce que nous faisons, nous, quand nous jouons? Eh bien, nous sommes pleinement le comédien et pleinement le personnage en même temps. Qu'est-ce que c'est que le Christ? C'est exactement ça, pleinement Dieu et pleinement homme en même temps. C'est-à-dire que faire l'expérience d'être comédien sur un plateau, c'est faire l'expérience en petit du Christ. Alors que pourquoi le christianisme ne touche pas tout le monde? Parce que les juifs et parce que les musulmans pensent que c'est pas possible, cette incarnation d'un Dieu qui s'incarnerait. Eh bien le théâtre permet ça, de comprendre ça. Comme il permet de comprendre la liberté, le problème de la liberté qui s'est posé dans l'Église depuis toujours, entre les jésuites et les jansénistes. Vous voyez, ça sert aussi. Les hommes d'Église, ils ont fini par comprendre ça. D'accord. Ils ont fini par comprendre. C'est pour ça qu'il y a une évolution.
Alors maintenant, voilà. Maintenant, un comédien peut se faire enterrer dans un cimetière.
Bien sûr, maintenant,
catholique,
un
comédien. Chrétien.
Et puis les hommes d'église peuvent remercier les gens de théâtre qui permettent de comprendre dans leur corps, dans leur chair, ce qu'est l'incarnation
Jean-Luc,
du Christ.
Prendre le corps de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire?
Quand vous êtes Bérénice, vous prenez le corps de Bérénice tout en gardant votre corps.
Oui, oui, j'entends.
C'est
drôle parce que pour moi, c'est très simple. Tous les enfants font ça. Tous les enfants jouent à ça et on s'y croit. Rappelez-vous votre enfance, on s'y croit. On est dans le corps du personnage qu'on s'est inventé.
Oui.
En fait, l'humain, il est ça.
Oui,
après, on le perd,
bien sûr.
On essaie
enfin, au théâtre, c'est...
On retrouve ça.
Au théâtre, c'est une cristallisation de la chose, quoi. C'est magique, quoi.
Ah oui, c'est magique.
De comprendre ça. Et je vous assure, moi, je suis aussi humblement, je n'ai pas le talent de Louise, mais quand je joue, ce qui est extraordinaire, c'est ce moment où on est pleinement, complètement le personnage. Et on se plonge dans le personnage. Et il suffit d'un rien. Il suffit que vous soyez au premier rang, que vous mangiez un bonbon, et hop, on se dédouble. L'autre jour, j'ai joué, il y avait une spectatrice un peu... Voilà, qui bougeait, etc. Et je me suis vu jouer. Dans un dédoublement, je me regardais jouer. Alors que quand on est unifié, pleinement unifié, comme le Christ, ça c'est... C'est ce qu'on appelle une hypostase, en termes théologiques. Nous réalisons sur un plateau une hypostase, voilà. Et ça permet de comprendre le christianisme, de comprendre la réalité du christianisme qui n'est pas, comme le disait saint Paul, une folie. Folie pour les juifs, folie pour les... Non, c'est une réalité, c'est une vérité que nous pouvons expérimenter sur un plateau tous les jours. Même en jouant un monstre.
Ah ben oui, bien sûr. On a de tout en nous, de toute façon. Et après, les spectateurs croient qu'on est vraiment comme si ça, la juge, c'est père ou je ne sais pas.
Non, vous étiez très crédible, oui, Louise, dans votre rôle de juge d'instruction.
Il y a des personnes qui m'ont demandé si j'étais juge. Vous êtes juge. Alors, dans la vie, vous jugez les gens comme... Je dis non, je suis comédienne. Voilà. Et c'est très intéressant, quand même, ce rapport à cette forme de vérité, à cette sincérité-là.
Sûr.
Mais vraiment, franchement, rappelons-nous notre enfance, parce que c'est ça qu'on touche.
Quand les gens, les spectateurs, jetaient des pierres sur le comédien qui jouait Judas, c'était un hommage rendu au comédien qui jouait Judas.
Mais en fait...
Parce qu'il était vrai, pleinement authentique, pleinement unifié. C'est vraiment le mot fort, quoi.
Et donc, pour en revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, ce que j'avais tenté de mettre, qui vous a semble-t-il un peu déplu, si je parlais du théâtre japonais.
Mon Dieu, vous savez, me déplaire n'est pas grave.
Le théâtre no, le théâtre qui est très différent, entre le théâtre no et le théâtre kabuki, ça vous intéresse
pas ? C'est un théâtre religieux. C'est un théâtre religieux.
Théâtre no, c'est un théâtre de la cour de Heian, puis de Kyoto, c'est très...
Enfin, le projet, au départ, est un projet religieux.
Oui, c'est très hiératique, c'est un peu difficile à suivre, honnêtement, quand on est occidental.
C'est des formes théâtrales.
Mais le kabuki, en revanche, c'est un peu l'équivalent du théâtre de boulevard, c'est du 19e siècle, c'est la bourgeoisie de l'époque Edo.
Bien sûr, mais il y a un formalisme qui est avec des règles, qui ne sont pas celles de la liberté, parce que le personnage sur un plateau, ensuite il est totalement libre, grâce au classique dont je parlais tout à l'heure. On me fait signe en disant, il faut absolument arrêter l'émission.
Ah bon, dommage. C'est dommage, on aurait passé l'après-midi à deviser. Merci en tout cas de m'avoir invité,
c'était un plaisir. Et puis de toute façon, je crois que vous connaissez bien Louise.
Oui. En tout cas, merci de m'avoir invité également.
Et tous les gens qui connaissent Louise sont des gens de qualité. Donc,
absolument.
Par définition, je ne vous connaissais pas, sinon pour vous avoir vu à la télévision de temps en temps, quand on vous permettait de vous présenter.
Oui, c'est-à-dire presque
Eh bien,
zéro.
Au revoir, et puis au mois prochain, je pense que nous parlerons de Musset, normalement. On devrait parler de Musset le mois prochain, voilà.
Merci à tout le monde. Merci.
Voilà.
Merci.
Vous venez d'entendre le libre journal du théâtre, dirigé par Jean-Luc Génère, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 20 février 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Claudia.
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.